vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 141. Blandine Guth, un petit tour à Lauterbourg. Chers amis, bonjour. Ou alors peut-être, chers amis, au revoir. Est-ce que là, on entre ou est-ce que là, on sort? Nous sommes à Lauterbourg. Vous savez, sur la carte de l'Alsace, c'est tout en haut, sur le bord du Rhin. À Lauterbourg, il y a un grand panneau. Porte de France. Alors j'imagine que ce n'est pas pour dire « foutez le camp », mais au contraire pour dire « bienvenue ». En tout cas, je souhaite aujourd'hui la bienvenue à quelqu'un que vraiment tout le monde connaît à Lauterbourg. Et alors je vais poser une colle aux auditeurs de Radio Judaïka Strasbourg. Qui est la personne la plus connue dans une petite ville de 2300 habitants? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est l'épicière? Est-ce que c'est le docteur? Non, la personne que vraiment tout le monde connaît, parce qu'ils ont des enfants, parce que c'est la personne qui va les guider dans leur avenir, la personne la plus connue, c'est le proviseur du bahut. C'est la patronne du collège, la principale. Bonjour Blandine Guth.
Bonjour Ambroise.
Alors merci d'être avec nous au téléphone. Là, je vous ai un peu surpris avec cette introduction fanfaronnade. Mais tout le monde vous connaît vraiment à Lauterbourg?
Je pense oui. Je pense aussi bien au niveau des écoles, effectivement, au niveau des activités. Oui, je pense.
Alors, est-ce qu'on dit Guth ou Goutte? Parce que ça s'écrit G-U-T-H, mais en Alsace, en principe, on dit Goutte, non?
Oui, ben, nous, on dit Guth, parce que mon mari, il est de Besançon, et donc, voilà, on a pris l'habitude de dire Guth.
Oui. Bon, alors, Blandine Guth. Alors, mais vous êtes quand même une Orinoise qui a atterri dans le coin le plus loin du Bas-Rhin.
Absolument, oui. Oui, je suis Orinoise d'Ansisheim. Et effectivement, j'ai atterri à Lauterbourg en 1978.
Alors, je sais qu'il y a une association des Orinois dans le Bas-Rhin, la diaspora des Orinois. Bon, c'est une blague, hein, et tout. Mais vous vous sentez alsacienne pur sucre?
Oui, absolument. Absolument, pur sucre. Oui. Voilà.
Alors, vous êtes connue parce que vous êtes la protale, hein, comme on dit, du bahut. Bon, de façon plus cérémonieuse, la principale du collège.
Le collège Holderit.
Voilà, et alors le collège s'appelle Holderit.
Oui.
Alors c'est le nom d'un germaniste, hein. C'était un professeur, comme vous, mais qui est né à Lauterbourg, et qui est devenu assez connu, il est mort il y a une cinquantaine d'années, hein, je crois.
Et... Non, une trentaine. Moi, je sais que j'habitais Lauterbourg quand il est décédé, donc c'était dans les années 2000, 1980-90, oui, peut-être.
D'accord, oui, il y a 30 ans. Et alors, il était inspecteur d'académie.
Inspecteur d'académie, et puis inspecteur général, et puis il a mis en place la méthode Holderit, donc
pour très, très connu.
Hein. Dialectophone.
Voilà. Pour apprendre l'alsacien, en fait.
Non, pas pour apprendre l'alsacien, c'est pour apprendre l'allemand sur des bases de dialectes, en connaissant l'alsacien, puisque dans le nord de l'Alsace, et notamment dans le secteur de Lauterbourg, tous les enfants des villages et de Lauterbourg parlaient l'alsacien. Et donc sa méthode, elle se basait pour des enfants qui étaient dialectophones, parce que c'était une méthode très difficile, avec des textes très difficiles, du vocabulaire, et c'était basé effectivement pour les enfants dialectophones.
Et est-ce que cette méthode est toujours utilisée dans les classes, dans les lycées?
La méthode Holderit, non, pas vraiment. Il y a juste encore peut-être le collège de Seltz, Lauterbourg, Sulz et Wissembourg, les quatre collèges de l'Outre-Forêt, peut-être Soufflenheim aussi, où ils enseignent encore, ils ont des groupes d'enfants dialectophones. Ils font dans leur groupe, quand ils ont les moyens de le faire, puisque ça coûte des heures, ils mettent des enfants qui sont dialectophones, comme ils font des groupes pour les bilingues, ils ont, dans certains de ces collèges, en cours des groupes dialectophones, où ils enseignent effectivement plus la méthode Olderit, mais une méthode un petit peu semblable, c'est Zwirbel, hein, ça s'appelle les livres qu'ils utilisent, c'est Zwirbel, et effectivement, c'est pour les enfants dialectophones qui ont une base, de la structure grammaticale de la langue allemande, hein, puisque l'alsacien est quand même structuré au niveau des bases grammaticales. Il a les bases sur le dialecte germanique ou francique, voilà, et donc qui est adapté à cette méthode. Ouais, encore.
Alors, est-ce que dans l'Outre-Forêt, donc l'Outre-Forêt, oui. C'est après la forêt de Haguenau, qui est une des plus grandes forêts de France, est-ce qu'on a dans notre identité, disons, alsacienne, quand même un sentiment d'être aussi un peu ou beaucoup allemand ?
Non. Je pense pas, disons moi, en tant qu'Orignal, je peux pas dire, mais peut-être les personnes des villages, oui, de l'Outre-Forêt, peut-être. Bon, et encore, je pense plus, peut-être plus maintenant. Peut-être.
Bon, après-guerre, oui, après-guerre, bien oui. sûr, parce que il y avait tous ceux qui avaient changé 36 fois de nationalité, allemand-français. Puis aussi parce que, c'est un détail, mais c'est très important, dans les années 60, les seules télévisions que l'on pouvait capter dans l'Outre-Forêt, c'était la télévision allemande. Et donc, les gens se sont nourris. C'est pour ça que la Schlagermusik, M. Robin, ont tellement de succès. C'est parce que, pour des raisons techniques, parce que les relais hertziens allemands étaient plus puissants, les gens regardaient la télé allemande. Donc, ils ont capté la culture allemande. Bon, alors, à Lauterbourg, j'avais posé la question, on rentre ou on sort en France ?
On rentre en France,
oui, c'est ça. Donc c'est bien, c'est vraiment ça. Voilà. Voilà. Mais alors, autre facette de votre personnalité, c'est que vous êtes, entre autres, hein, mais on va commencer par cela, la présidente du ciné-club de Lauterbourg. Et c'est en fait, le ciné-club, c'est un vrai cinéma. Et c'est quand même rare de trouver encore un cinéma dans une ville de 2000 habitants, et donc les gens, ils viennent de partout, des villages, de partout et tout. Vous avez réussi à créer, non pas de créer un ciné-club, oui, mais surtout de créer un public. Alors ça, depuis une trentaine d'années, je crois.
Depuis 1993.
Voilà.
Voilà, oui, absolument, donc c'est un club cinéma. Donc, qui existe à Lauterbourg, mais je ne suis pas la présidente du club, je suis la présidente de la Maison des Jeunes de Lauterbourg, et ce club cinéma fait partie de la Maison des Jeunes. Donc, c'est un club cinéma, comme il y a le club de judo, comme il y a le club de
jiu-jitsu. D'accord, donc c'est une structure associative qui permet de passer entre les gouttes du commercial, qui est parfois très difficile, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc, bon, on passe des films, effectivement, c'est un cinéma commercial le week-end, hein, puisqu'on passe des films qui sortent au niveau national. On ne passe pas que des films d'il y a 2-3 ans ou des films de ciné-club. C'est vraiment un club cinéma, mais c'est un cinéma voilà, qui est ouvert le week-end, le samedi, pour les films sortis nationales. Donc
Est-ce que vous passez aussi les programmes dits de ciné-club, alors je vais dire comme ça, Casablanca, Chantons sous la pluie, les grands classiques, Citizen Kane, que tout le monde a vu, mais que les jeunes de 18 ans n'ont pas vu. Est-ce que vous passez aussi ce genre de films ?
Je peux passer, au niveau du club cinéma, je peux passer tous les films que je veux, voilà, absolument. On a fait déjà c'était un week-end cinéma western, on avait fait à une époque, on a fait, bon, je peux avoir tous les films, vu que je suis dans un réseau de cinéma itinérant, donc je fais partie de la CRCC, donc la Coopérative Régionale des Cinémas Culturels, qui me permet d'accéder à tous les films. Je passe par eux pour récupérer tous les films et puis je peux les projeter. On a les moyens de le projeter dans la salle de cinéma de Lauterbourg, dans la mesure où on a un projecteur numérique. On a tout ce qu'il faut au niveau de la salle.
Voilà, maintenant, en 2026, on ne va plus chercher les bobines de films en voiture à la CRCC, à la cité administrative de Strasbourg, qui pèse 20 kilos.
Mais on l'a fait tout au début, dans les années 93, donc jusqu'en 2010. Même un petit peu, non, peut-être avant. On cherchait les films à la rue de Rome, à la CRCC, oui, tout à fait.
Voilà, et je me souviens de, puisque moi j'avais aussi un ciné-club à Haguenau, le Cyclope, on allait voir Alfred Anthony. Vous vous souvenez de lui, cinéphile complètement, alors c'est très positif ce que je vais dire, starbé, qui devait voir 5-6 films par jour. Est-ce que vous vous souvenez, alors on fait toujours des digressions dans notre belle émission sur Radio Judaïca Strasbourg, vous l'avez bien connu, le film préféré d'Alfred Anthony, donc le film de ciné-club qu'il préférait. Ah, le Hermer, non. Et puis, je ne sais même pas s'il était dans le catalogue. Non.
Non, il n'était pas dans le catalogue, mais c'est un de ses films préférés,
oui,
absolument.
Oui, alors c'était Le Masque du Démon de Mario Bava avec Barbara Steele, je crois.
Oui.
C'est un film, je ne veux pas dire horrible, mais ce n'est pas un film génial. Mais quand on l'avait vu 3-4 fois, qu'est-ce qu'on se marrait. Enfin, c'était, voilà. Donc, les chers auditeurs cinéphiles, je pense qu'on doit pouvoir trouver ce film quelque part sur Internet. Le Masque du Démon, voilà. Et ce sera un hommage au temps pionnier des ciné-clubs. Et alors, quand on dit ciné-club dans l'Outre-Forêt, on pense aussi au ciné-club de Vissembourg, avec Edmond Grand-Georges, qui était aussi, lui, un des pionniers. Et vous, Vissembourg, ça vous dit quelque chose, puisque vous avez été proviseur adjointe à Vissembourg pendant un moment.
Bien sûr, Vissembourg, je connais bien. Et puis bon, je vais toujours au ciné-club de... Le ciné-club de Vissembourg, donc de Edmond Grand-Georges, oui, absolument. Et effectivement, son ciné-club, il date aussi des années, je dirais, 1970.
Oui, il a été notre invité il y a quelques mois dans notre émission, oui. Et alors, est-ce que vous faites des choses ensemble, par exemple, vous invitez des acteurs ou des réalisateurs, faire un petit peu la promotion des films qui viennent de sortir, et en même temps, ça permet de faire des débats après le film?
Non, je ne fais rien. Et disons, pour ce qui est du grand public, je ne fais pas de programmation avec M. Grand-Georges, avec le Ciné-Club. Par contre, on a fait des actions avec le Ciné-Club à l'époque où il avait ses animations, son festival d'animation, il y a quelques années.
Oui, les films de dessins animés notamment, oui.
Tout à fait. L'Erika, voilà.
L'Erika, voilà.
Rencontre internationale du cinéma d'animation. Donc, il y a... Par contre, on décentralisait les projections. C'est tout ce qu'on faisait ensemble. Il y a des films qu'on passait à Lauterbourg, voilà, au cinéma. Et puis, ils passaient les autres films au niveau du relais à Vissembourg. Voilà, donc c'était un travail en commun. Et puis, actuellement encore, le travail que je fais avec lui, c'est pour les scolaires, c'est pour les élèves. Donc, on a un programme de cinéma scolaire, d'école et cinéma, comme on l'appelle. Et donc on fait la programmation, on a fait la programmation ensemble, voilà, j'ai participé, et on permet à tous les élèves du Nord Alsace de venir au cinéma pour les élèves des écoles primaires et maternelles. Voilà, donc là, on a une petite programmation pour chaque année, et puis voilà, les gamins, ils viennent des différentes écoles par bus pour aller au cinéma. Et ce cinéma, par contre, donc ces films sont toujours accompagnés par des documents, par un document pédagogique, par un dossier, et pour que les enseignants puissent travailler avec les enfants sur les différents thèmes du film ou sur les différentes scènes du film. Voilà.
Est-ce que les cinémas commerciaux, alors le plus proche cinéma commercial, c'est peut-être à Haguenau? Oui. Est-ce qu'ils ne pensent pas que vous leur faites de la concurrence, que vous leur prenez des spectateurs? Non.
Non,
il y a une bonne entente. Oui.
On ne se connaît pas, non. Et puis,
ah oui.
Non, on est trop loin, de toute façon, pour Haguenau et pour Strasbourg.
Oui, ça fait quand même 30 km, oui, donc pour aller au Cinoche, oui, surtout que... Mais est-ce que, je reviens à ma première question, est-ce que vous avez l'occasion d'inviter des acteurs ou des réalisateurs pour des avant-premières, des projections, non?
Je ne l'ai jamais fait. les seules fois où on a fait une action, c'était avec avec Amnesty International. Donc là, effectivement, on avait invité le réalisateur du film Maître. Mm-hmm. Et puis on avait accueilli les avocats. Les avocats donc qui ont joué dans ce film. Et voilà. Pour Amnesty International, si, voilà, on invite parfois. Mais bon, c'est vraiment dans un cadre bien particulier. C'est pas dans le programme, dans la programmation classique, voilà, mensuelle du Club Cinéma.
Voilà. Alors justement, c'est formidable que vous mentionnez ainsi une autre association, Amnesty International, dans une petite ville, hein, 2000 habitants, une grande petite ville ou une petite grande ville. Il y a plein d'animations. Des gens dynamiques, et donc il y a des casquettes différentes qui s'échangent, qui passent et tout. Et je sais aussi que vous, par exemple, vous faites un travail avec des enfants handicapés pour faire de la voile, pour faire du bateau.
Ah oui.
Alors ça n'a rien à voir avec le cinéma, et en même temps, alors c'est fort généreux, c'est formidable, mais ça veut dire qu'on peut faire plein de choses dans une ville comme Lauterbourg.
Oui. Étant donné que je suis présidente de la Maison des Jeunes, effectivement, au niveau de la Maison des Jeunes, nous avons une activité, une section voile, et nous avons un plan d'eau à Lauterbourg qui est vraiment remarquable, et effectivement, nous avons acheté un bateau, un voilier, spécifiquement pour les enfants handicapés, pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Donc on l'appelle notre handivoilier. Et avec ce bateau, nous proposons aux enfants de Wissembourg ou de Bichwiller ou d'ailleurs qui viennent pour passer une journée au niveau sur le plan d'eau de Lauterbourg et qui profitent à ce moment-là de faire un petit tour en bateau. On peut mettre jusqu'à 7 fauteuils roulants sur le
bateau.
Voilà, donc ils peuvent faire le tour du plan d'eau, qui est très beau. Et ça fait 3-4 ans maintenant qu'on a vraiment énormément de demandes, justement pour des sorties d'un jour pour les enfants à mobilité réduite, quoi. Et puis,
voilà, et ça crée une ambiance formidable au sein de la MJC que vous présidez, oui.
Absolument, oui.
Quels sont les autres clubs de la MJC, comme ça, dynamiques, comme le vôtre,
Il y a le cinéma, il y a aussi une chorale, après il y a des activités sportives, donc il y a la section voile, ensuite on a une section de peinture, dessin, un peu art graphique, oui. On a donc aussi des activités sportives comme le jiu-jitsu, on a un club de frisbee aussi, et puis on a un club de musique aussi, donc et batterie et puis autres instruments. Oui, donc on a quelques petites...
Ça donne vraiment envie d'habiter à Lauterbourg.
Ah oui, je crois qu'il y a de quoi faire. Oui,
mais pour aller à Lauterbourg, est-ce qu'on peut y aller en train maintenant encore? Oui, la voie ferrée a été rétablie, alors.
Oui, mais elle existe depuis toujours. Bon, il y a eu des travaux, il y a eu des actions qui ont été faites sur la ligne de train, mais il y a toujours eu, et puis actuellement toujours, on peut venir de Strasbourg à Lauterbourg, et puis voilà, sans problème, je crois qu'il y a... Mmh. Le matin, il y a 3 ou 4 Lauterbourg-Strasbourg pour les gens qui vont travailler sur Strasbourg. Et puis pour ceux qui reviennent le soir, il y a aussi 3-4 horaires. Il y a de quoi faire. Et on peut aller à Karlsruhe aussi.
Justement, j'allais vous demander, est-ce que l'attraction de l'autre côté de la frontière, elle existe? Landau, Karlsruhe, Baden-Baden peut-être aussi?
Baden-Baden moins. Bon, maintenant, apparemment, il va y avoir un train qui viendra de Haguenau jusqu'à Baden-Baden ou jusqu'à Rastatt. J'ai vu ça dans la presse. Mais par contre, nous, on a une ligne directe entre Lauterbourg et Karlsruhe. Mmh.
Comment est-ce qu'on traverse le Rhin depuis Lauterbourg?
Ben, on traverse le Rhin depuis Lauterbourg.
Il y a un pont, bien sûr.
Non. À Lauterbourg, il n'y a pas de pont.
Oui, il faut aller à Gamsheim.
Il faut aller à Iffertsheim, ou bien alors il y a à Fels, il y a un pont, un pont, non, c'est un bateau. On traverse avec un pont flottant, disons, on fait la traversée du Rhin. Et puis après, sinon, il faut aller sur Karlsruhe pour traverser le Rhin, oui.
Oui, donc vous êtes bien isolé quand même.
Si
les barbares viennent vous envahir, comme disait Jules César, je crois qu'il avait établi un camp là-bas et tout. Donc Lauterbourg, mais Lauterbourg est connu aussi pour être un port.
Oui.
Alors je sais que mon grand-père étaient douaniers, mais alors c'était avant la guerre de 14, je crois, pour le charbon qui arrivait en péniche à Wissembourg, à Lauterbourg, à Lauterbourg.
Toujours, d'ailleurs, il y a eu jusqu'à, même jusqu'à la guerre 39-45, et puis même après, encore dans les années 50, il y avait du charbon qui arrivait au port de Lauterbourg. Et puis donc maintenant, comme il y a deux, trois grandes usines au niveau du port du Rhin, ben effectivement, il y a plein de matériaux qui arrivent encore par train ou qui sont déplacés par train et par bateau. Ouais.
Est-ce que Lauterbourg perd des habitants, comme beaucoup de villes, ou est-ce qu'elle a, au contraire, la ville en gagne des habitants?
Je dirais que c'est stationnaire, parce que Lauterbourg, comme vous l'avez dit au début, on est coincé dans l'angle nord-est de la France. Et le banc communal de la ville de Lauterbourg est très peu développé. Dans la mesure, on est coincé entre Scheibenhardt et puis après, on est coincé par le Rhin. Donc, non, je dirais, Lauterbourg ne s'agrandit pas vraiment. Bon, on stabilise apparemment la population, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de s'étendre. La ville de Lauterbourg ne peut pas s'étendre.
Il n'y a pas de zone où on peut construire de résidentiel comme ça, là, des lotissements, comme on dit. Non.
On en a des lotissements, mais on ne peut plus tellement en avoir, puisque les zones qui ne sont pas, disons, construites, ce sont des zones inondables. Et donc, voilà, on a vers l'Allemagne, vers le nord, ben, il y a une zone inondable, on aurait énormément... Près du cinéma, d'ailleurs, là où ils ont construit la salle polyvalente avec la salle de cinéma, ben derrière, il y a effectivement de grands terrains, de belles prairies, les Lauterwiese, comme ils disent, et ben elles sont inconstructibles parce que ce sont des zones inondables. Plus vers la gare ou plus un peu vers le sud, eh ben, c'est un peu le même problème. Tout le principe de la ville de Lauterbourg, parce que c'était une ville fortifiée, hein, donc tout le principe, eh ben, il est inondable, donc on ne peut pas construire. Et puis voilà, donc on a un peu de terrain autour de Lauterbourg, mais pas constructible.
Voilà. Alors, Blandine Guth, j'en reviens à votre métier de professeur-proviseur. Je vais vous lire une petite phrase et vous allez me dire quel ministre de l'Éducation nationale a dit cela. « Laissez vivre, laissez respirer l'esprit pédagogique et faciliter l'éclosion des projets, sans oublier que les élèves sont au centre de tout. » Qui a dit ça ?
C'était Bayrou ou bien alors Ségolène Royal, il me semble qu'à un moment donné...
Eh ben non, je vais vous dire qui a dit ça, c'est Blandine Guth dans son discours de départ à la retraite.
Ah, d'accord.
C'est vous qui avez dit ça.
Ah bon,
c'est formidable, non? Je vais le relire pour nos auditeurs parce que c'est vrai, ça montre l'amour qu'un prof peut avoir pour ses élèves. Laissez vivre, laissez respirer l'esprit pédagogique et faciliter l'éclosion des projets, sans oublier que les élèves sont au centre de tout.
C'est vrai, exact. Voilà. Ça a toujours été mon principe et mon leitmotiv quand j'étais principale ou proviseur adjoint. C'était toujours ça. C'était, voilà, c'est exactement.
Est-ce que vous aviez un surnom? Vous savez, les profs ont toujours des surnoms. C'est jamais méchant, mais enfin.
Non, ça ne se fait plus, ça. Non. Peut-être que je ne le savais pas, mais bon, non.
Oui.
Oui, non.
Moi, je me souviens, oui, une fois, il y avait un prof qui était venu avec des chaussons, il devait avoir mal aux pieds, alors enfin, il a enlevé ses chaussures, il mettait des chaussons, donc il a eu comme surnom Savate pendant 20 ans ou 30 ans. Si monsieur Savate nous écoute, l'ancien élève du lycée de Haguenau le salue, voilà. Mais en tout cas, c'est formidable d'avoir... les élèves vous adoraient, non?
Oui, je pense, oui, je n'ai jamais eu de problème, non, franchement. Et d'ailleurs, quand je les revois maintenant, puisque je les croise tous à des postes plus, voilà, importants, au niveau des commerces, ou au niveau de l'hôpital, ou au niveau de, voilà, bah, souvent, bah, écoutez, j'ai jamais eu de problème, ils viennent me saluer, ils sont contents de me reconnaître, de me voir. Non, non, j'ai vraiment gardé un bon contact avec les élèves, un contact que j'ai toujours eu comme ça.
Voilà, et puis ils viennent vous dire, ben, je suis parti à Strasbourg faire des études. Maintenant je fais ça, voilà.
Oui, tout à fait.
Ça crée une fierté quand même.
Ah oui, c'est vrai que ça me fait du bien. Ça me fait du bien quand je retrouve des élèves, voilà, qui me, voilà, au bout de 40 ans, parce que j'étais quand même à Lauterbourg quand je suis arrivée dans le Nord Alsace en 78, hein, donc j'ai fait ma première année, j'avais fait à Lauterbourg en tant que prof.
Oui.
Et quand je retrouve des gamins encore, maintenant qui ont 50 ans, voire plus, ben, ça me fait toujours plaisir que, voilà, qu'ils se souviennent.
Et ils vous racontent ce que font leurs propres enfants et tout.
Oui.
On oublie cela, mais c'est quand même formidable d'être prof. Mon papa, qui était prof d'histoire à Wissembourg, je ne sais pas si vous l'avez croisé à l'époque.
Oui, je l'ai connu.
Vous l'avez connu. Et puis ma maman, qui était institutrice, hein, ils avaient fait ensemble l'école normale, c'est là où ils se sont rencontrés. Et ma maman disait... Le plus beau métier du monde, c'est d'apprendre à lire à un enfant.
Ah oui, absolument.
Ah, voilà.
Voilà. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est le moment. D'ailleurs, moi, j'ai été aussi, avant d'être professeur de collège, j'avais été institutrice. Et effectivement, moi, j'avais eu une classe de CP, CE1. C'était ma première année. Et je suis arrivée à les faire lire à Pâques. Ils savaient tous lire.
C'était c'est génial,
vraiment.
Ça.
C'était génial.
Voilà.
Vraiment, je n'oublierai jamais le bonheur que j'ai eu quand tous les gamins, du plus petit, du plus faible, ils savaient tous lire à Pâques. Oh là là, c'était merveilleux.
C'est merveilleux. Alors, autre chose qui est merveilleux, c'est le petit gag habituel de notre émission, vous l'avez bien connu, c'est la recette de la tarte au fromage. En quelques secondes, est-ce que vous faites de la tarte au fromage ?
Oui, j'adore faire de la tarte au fromage et j'ai une recette... Et je prends du bip à la caisse pour prendre mon fromage.
Et comment vous faites pour qu'elle soit assez légère et pas patapouf
Je bats bien les œufs,
voilà. Oui.
Et puis je fais le bon mélange, et puis je mets mon bip à la caisse, je mets mon sucre un petit peu, puis voilà, et un petit peu de farine aussi. Et puis hop,
et la croûte, vous faites quoi ? Une pâte
brisée.
Pâte brisée.
Oui.
Voilà. Ben, voilà. Elle doit être aussi bonne que celle de la rue Gaillère à Strasbourg.
Oui, au moins.
C'était l'épisode numéro 141 de Vous l'avez bien connu, Blandine Gut, un petit tour à Lauterbourg. Alors, Lauterbourg, mais vous, est-ce que vous avez la nostalgie du Haut-Rhin ?
Non, maintenant. Bon. Au début, oui. Dans les premières années, oui. Mais là, non, plus maintenant. Je me sens bien ici. J'ai mes amis, j'ai mes racines maintenant ici. Non, ça va. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour les personnes qui veulent voir ce qui se passe au cinéma, on a un site. Hein, donc, il suffit qu'ils mettent Club Cinéma à Lauterbourg ou bien qu'ils aillent sur le site de la mairie. Et ils ont les programmes, chaque semaine, programmes des films qu'on passe.
C'est une très bonne idée d'aller à Lauterbourg au cinéma. Et puis, il y a des bons restaurants aussi. Et puis voilà, de faire un petit tour. Voilà. La semaine prochaine, nous allons un peu plus loin. Nous allons au Japon pour y faire du yoga. Et le yoga japonais, on le pratique aussi à Strasbourg. Et tous ceux qui ont les muscles un peu coincés, vous allez adorer. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïka à Strasbourg tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. À la technique, Thomas Marinelli. Et ça rime toujours avec midi, hein, Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.